Eh bien, on avait vu une fois précédente, on avait parlé de l'amour de Dieu et que Dieu est amour. Et c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir dire Dieu est amour, Dieu nous aime. L'amour se manifeste dans la création de plusieurs manières. Vous avez des animaux qui ont de l'amour pour leurs petits. Et vous voyez une maman chat avec ses chatons, elle est pleine d'amour. On ne peut pas nier qu'une maman chat n'ait pas d'amour pour ses petits. Et à plus forte raison, une maman humaine a de l'amour pour ses enfants, normalement. Parce que bien sûr, il y a des choses que l'on entend parfois qui nous attristent beaucoup sur l'humanité. Mais l'amour est quelque chose que l'on retrouve en dehors de Dieu, et je crois que c'est quelque chose qui reste de notre création à l'image de Dieu, et qui reste dans l'homme, et qui reste aussi dans la création, donc comme certains animaux sont remplis d'amour pour leurs petits. C'est si, par exemple, nous découvrions, on ignorerait ce qu'est l'amour. L'amour révélé dans la parole de Dieu, et que l'on découvre un manuscrit, et l'illustration n'est pas de moi, quelqu'un l'a donné il y a bien longtemps, et que ce manuscrit, on l'ouvre petit à petit, et on ouvrirait et on découvrirait Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il est? Et on découvrirait amour. Vous savez que la plupart des religions qui sont sur la terre, pour ne pas dire toutes les religions, ne parlent jamais de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'existe pas. C'est la parole de Dieu qui nous révèle l'amour de Dieu. Je me rappelle, j'ai témoigné à un jeune pendant 10 ans. Et parfois, c'était 3, 4 heures par semaine. Donc, on a passé du temps à parler. Mais un jour, je lui ai parlé de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui avait envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et j'ai vu ce jeune homme pleurer. Parce que l'amour a brisé son cœur. Il a compris que Dieu l'aimait. Bon. Il résistait parce qu'il était d'une religion qui ne cède pas comme ça. Mais j'espère qu'il était avec le Seigneur. Parce que je crois qu'il est parti, il est décédé. Je n'ai plus de nouvelles depuis bien longtemps. Mais c'était quelque chose de parler de l'amour de Dieu. Et moi-même, en en parlant, je découvrais des choses sur l'amour de Dieu que je n'avais jamais vues. Et je me suis dit, mais quand même, Dieu est amour. On prononce cette petite phrase comme si c'était un fait divers que l'on lit dans le journal. Voilà, vous avez un gros titre sur un journal, un jour Dieu est amour. Et comme il y a eu tant de morts dans un accident de la route, il y a eu. Et pour nous, c'est presque comme un fait divers. Quelque chose que nous ne pesons pas, nous ne n'approfondissons pas la question. Mais Dieu est amour. Il est beaucoup plus que d'un amour beaucoup plus grand que tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. C'est même si nous arrivions avec notre pensée à aller assez loin dans l'amour de Dieu, eh bien nous n'irions pas encore assez loin. C'est Dieu est amour, au-delà de ce que l'on peut imaginer. Alors pour faire suite à ce que nous avions déjà vu. Eh bien, je me suis dit, je voudrais voir l'amour de Dieu dans les psaumes. Alors, travail est très dur. Je me suis arrêté à la moitié des psaumes, au psaume 60, parce que déjà, j'ai rempli une page. Donc, et j'imagine qu'avec le reste, je peux remplir une autre page. L'amour de Dieu est manifesté dans les psaumes. Mais le mot amour n'est pas mentionné comme amour. On trouve bonté. Mais dans les Septante, dans le grec des Septante, eh bien, ce n'est pas bonté, c'est compassion, la plupart du temps. 90% des versets des psaumes qui ont bonté, eh bien, c'est compassion. Et quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il avait vu cette foule qui était sans berger, comme des brebis sans berger. Il a été ému de compassion pour elle. Il ne nous est pas dit qu'il les a aimés. À un autre moment, il est question de quand le jeune homme riche est venu, on dit il l'aima. Mais la foule, il était ému de compassion pour elle. C'est un terme très fort. C'est très fort, ému de compassion. C'est quelque chose qui, si je puis m'exprimer ainsi, parce que la définition est très difficile, c'est il y a une fibre sensible en nous qui est touchée quand on voit quelqu'un dans son dénuement, sa petitesse, sa faiblesse. Et on se dit, c'est quand même quelqu'un, c'est une personne. C'est si, par exemple, vous avez la joie de rencontrer un frère en Christ ou une sœur en Christ dans la rue, eh bien, et que vous voyez cette personne un petit peu triste, vous êtes ému au fond de vous-même. Vous voudriez soulager la personne, vous voudriez porter son fardeau. Et autant que vous pouvez, vous le pouvez. Mais ce n'est pas facile de porter les fardeaux des autres. Et les autres ne se vous laissent pas facilement leur fardeau non plus. Mais si on les aime, eh bien, il y a quelque chose qui est possible. Cet amour qui est ému de compassion. Et c'est ce que nous trouvons dans les psaumes, c'est ému de compassion. Disons, c'est compassion, c'est pas, va pas si loin que ému de compassion. Donc c'est le premier psaume dont il est question, et j'ai une liste, mais je ne vous dis pas qu'on va la finir, hein. On n'est pas, va pas rester peut-être trop longtemps, mais on va en voir quelques-uns quand même. Et le premier, c'est le psaume 13. Psaume 13, le verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et ici, c'est le mot compassion. J'ai confiance en ta compassion. On a confiance que Dieu est ému pour nous, qu'il ne nous abandonne pas. C'est comme l'amour dans le sens courant, je pourrais dire même vulgaire, c'est un sentiment seulement. L'amour chrétien, c'est tout à fait autre chose. Selon ce monde, l'amour, c'est un sentiment. Mais l'amour chrétien est beaucoup plus que cela. C'est une association avec une autre personne. Quand on aime une autre personne, on s'associe avec cette personne. Il y a une communion. Il y a un contact avec cette personne. Et l'amour ne nous dispense jamais de faire quelque chose pour la personne qui est en difficulté quand nous sommes en présence d'une personne qui est en difficulté. Donc ici, j'ai confiance en ta compassion. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. On a confiance dans l'amour de Dieu, dans sa compassion. Il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux qui me vient à l'esprit et donc je n'ai pas la référence en tête, mais je pense que c'est dans le chapitre 13. Ce verset dit que certains se sont éloignés de Dieu parce qu'ils avaient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et il y a des personnes, et j'ai rencontré plusieurs chrétiens qui m'ont dit oui, qui font des reproches. J'ai dit oui, j'ai prié et Dieu n'a pas répondu. J'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ils font toute une liste, et voilà, et Dieu ne répond pas. Mais la personne qui est en faute, ce n'est jamais Dieu, parce que Dieu a compassion de nous, et il nous aime. Et son amour n'est jamais pris en défaut, jamais l'amour de Dieu est en faute. Dieu est un Père tendre et aimant, et il ne nous abandonne jamais. C'est nous qui avons abandonné Dieu. Si parfois Dieu n'a pas répondu, c'est qu'il ne pouvait pas, par sa nature même, il ne pouvait pas nous répondre. Si on vit dans la désobéissance, Dieu ne peut pas répondre à nos prières. Nous demandons à Dieu des choses, mais Dieu dit d'abord, mets ta vie en règle. Alors nous ne voulons pas mettre notre vie en règle parce que notre péché est, nous le minimisons. Nous disons, c'est pas si grave que ça. Oui, mais nous avons affaire au Dieu saint. Au Dieu infiniment saint, nous ne connaissons même pas l'amour de Dieu, nous en connaissons très peu, mais nous ne connaissons pas beaucoup plus la sainteté de Dieu. La distance infinie qu'il y a entre le Dieu saint et le péché, jamais le péché et Dieu se rencontrent. Il n'y a pas communion entre le péché et Dieu, entre la désobéissance et Dieu. C'est impossible. Et nous, nous voudrions faire cohabiter Dieu avec notre vie de désobéissance. Et nous disons, eh bien, pourquoi tu ne me réponds pas? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Notre vie n'est pas nette. Et Dieu a compassion de nous, mais il ne peut rien faire. Et la plupart du temps, s'il y a un problème, c'est l'incrédulité. Et en fait, la personne qui parle comme c'est ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, c'est une personne qui a un cœur mauvais et incrédule, qui s'est détourné du Dieu vivant. Et la personne peut être toujours à l'église, elle peut être même régulièrement à l'église, mais au fond d'elle-même, il y a cette rancœur, cette rancune vis-à-vis de Dieu, c'est « Dieu ne m'a pas exaucé ». Voilà, j'ai attendu une chose et Dieu ne l'a pas faite. Pourtant, j'ai compté sur les promesses de Dieu. Dieu a fait des promesses dans sa parole et je les ai mis à l'épreuve et je me suis rendu compte que Dieu n'a pas répondu et n'a pas agi selon ses promesses. Oui, Dieu n'a pas agi selon ses promesses. Mais est-ce que nous avons agi selon sa parole, selon ce que Dieu nous demandait dans sa parole? Et la faute n'est pas donc du côté de Dieu, elle est du côté de notre côté. Nous n'avons pas rempli les conditions pour que Dieu accomplisse les promesses. Et même s'il est ému de compassion, même si Dieu est amour, Dieu n'est pas faible. Et ce que nous avons souvent confondu, c'est l'amour de Dieu et la faiblesse. Mais Dieu est juste. Dieu est fidèle. Dieu est saint. Et il est amour aussi. Mais jamais l'amour de Dieu va aller contre sa justice, par exemple. Il y a des gens qui vous disent, mais si Dieu aime l'humanité, eh bien un jour on se retrouvera tous dans le ciel. Pas du tout. Parce que cet amour-là n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu compte toujours sur la justice de Dieu. Et il ne peut pas y avoir d'amour de Dieu sans justice. Si l'amour de Dieu est sans justice, c'est de la faiblesse. Si la justice est sans amour, c'est de la dureté. Et Dieu n'est ni l'un ni l'autre. Il est à la fois infiniment amour et infiniment juste. C'est pour cela que nous devons compter avec tout le caractère de Dieu quand nous prions et quand nous nous adressons à Dieu et quand nous attendons quelque chose de Dieu. Et la plupart du temps, nous ne connaissons pas Dieu. Et Paul disait aux Corinthiens, « Certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Et c'est à notre honte, parfois, que nous devons constater que nous ne connaissons pas Dieu ou nous connaissons Dieu insuffisamment. Nous ne le connaissons pas de la bonne manière. Nous ne nous sommes pas approchés du Dieu saint, du Dieu qui fait trembler les montagnes. Le Sinaï s'embrasait quand il y avait la présence de Dieu. Et nous, nous prétendons prier et ne pas être embrasés quand nous sommes dans la présence de Dieu. Mais on parlait du réveil tout à l'heure. Mais le réveil, c'est la présence de Dieu même. Dès que Dieu est là, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui change. C'est si le Seigneur Jésus disait que si les enfants se taisaient, les pierres crieront. Parce qu'il y avait le Messie qui était là. Et même si personne ne louait Dieu, eh bien les pierres allaient se mettre à louer Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins la matière loue Dieu. Si l'homme ne loue pas Dieu, c'est parce que à un moment ou à un autre, devant le Dieu infini, le Dieu éternel, le Dieu créateur, eh bien, il faut que quelque chose ou quelqu'un loue Dieu. Et si ce n'est pas des bouches, ce ne sont pas des bouches humaines, eh bien, ce seront des pierres. C'est dommage de céder notre place à des pierres, alors que ça devrait être nous qui devrions louer le Seigneur, lui rendre grâce et nous rappeler ses bontés, sa miséricorde, sa compassion, sa fidélité, sa justice, tout ce qu'il est dans son caractère. Louer Dieu pour tout ce qu'il est. Être émerveillé de Dieu. C'est le chapitre 17, le verset 7, nous amène à cela. 17, verset 7. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Et signaler, c'est un sens de rang admirable. C'est pas seulement mettre un signal et des montres, mais c'est rendre admirable ta bonté, rendre admirable ta compassion. C'est nous, nous devons, par notre vie, rendre admirable le caractère de Dieu. Notre vie doit donner soif de Jésus-Christ. Les gens doivent voir en nous cet amour que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, comme lui, il s'est donné. Pour nous, nous devons nous donner aussi. Et par amour, il doit y avoir quelque chose du caractère de Jésus-Christ qui est Dieu. Hein. Quand on parle de l'amour de Dieu, on parle de l'amour de Jésus-Christ aussi. Et l'amour de Jésus-Christ doit se manifester en nous. Mais Paul parlait aux Corinthiens, il disait que parlait de l'amour de l'esprit. Et aux Éphésiens, aux Colossiens, il en parle aussi. Il y a l'amour de l'esprit. Vous voyez que de quel amour l'esprit vous anime. Il y a quelque chose en nous qui doit se manifester, qui doit se voir, et rend admirable en moi ton amour. Les gens doivent voir et admirer, non pas la personne qui porte, parce que ce n'est qu'un vase, mais admirer le trésor qui est dans le vase et se dire, comme Dieu nous aime, quel amour il y a. Il y a des personnes qui sont allées dans des pays où ils risquaient leur vie pour annoncer l'évangile. Et les personnes qui étaient tellement hostiles à l'évangile ont fini par être touchées par l'amour que ces gens leur ont manifesté de risquer leur vie pour aller annoncer l'évangile. Je pense à ce qui s'était passé. Il y avait les Indiens Oka. Des missionnaires américains qui étaient allés et ils ont été massacrés pratiquement tout de suite. Mais les épouses des missionnaires sont allées après. Et les gens se sont convertis. Parce que c'est l'amour qui a remporté la victoire. Les maris ont été tués, oui, mais les femmes sont allées. Et les Indiens ont dit, si on peut nous aimer comme ça, nous qui sommes des meurtriers, ça vaut la peine de cet évangile hein, qu'on vient nous annoncer. On doit rendre admirable l'évangile, la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que la manifestation suprême de l'amour de Dieu, c'est l'évangile. Dieu a donné son Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il est la vie éternelle. Dieu a donné son Fils pour nous. Un si grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que d'avoir donné son Fils unique comme cela. Et c'est nous, nous devons rendre admirable, c'est signaler d'une manière particulière l'amour de Dieu pour nous, pour l'humanité. Et ce n'est pas, voilà, bon, ben, il y a des milliers d'âmes perdues sur cette terre, eh bien, on va remplir notre devoir et on va aller annoncer l'évangile. Mais c'est bien plus que cela. C'est une mission d'amour. C'est un don de soi. C'est une perte de son indépendance. On fait une action vivante en allant annoncer l'évangile. Ce n'est pas un devoir que l'on accomplit, ou du moins, ce n'est pas seulement un devoir, parce que c'est un devoir aussi. Mais si nous ne faisons qu'un devoir, eh bien, nous avons manqué le meilleur du message de l'évangile. Les gens doivent voir l'amour manifesté. Si nous avons été tellement aimés, ce n'est pas une petite chose que d'aller annoncer l'évangile et dire aux perdus qu'il y a un salut, parce que nous avons été tellement aimés. Donc, ce verset dit, rends admirable ta bonté, ta compassion. Et si il dit, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires, Dieu intervient, il nous délivre de nos adversaires parce qu'il a compassion de nous, parce qu'il se souvient que parfois nous sommes opprimés, que nous sommes troublés, que nous sommes blessés par d'autres. Et il arrive à notre rencontre. Et il nous soutient, il nous fortifie. Quand vous lisez les psaumes, et nous aimons les psaumes justement à cause de ce caractère même des psaumes, ce sont des prières de personnes qui sont en difficulté. Et David en particulier, nous connaissons mieux la vie de David que celle des fils de Corée et d'Asaph, ou d'autres personnes, mais il n'y a pas beaucoup d'autres qui ont écrit. Il y a beaucoup d'anonymes. Mais ce David était particulièrement opprimé et persécuté par Saül. Et il faisait confiance à Dieu. Il a crié à Dieu et il a été délivré. C'est quelque chose de merveilleux. Et puis, il y a le psaume 18, tout à fait à côté. Alors, on va lire le verset 7 d'abord, qui ne nous donne pas ce mot-là. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et puis, le verset 36, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Et ici, ce n'est pas le mot compassion qui est donné, hein. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que David était, comme je viens de le dire, opprimé. Il a été persécuté par Saül. Et on peut presque trouver une similitude entre notre vie et la vie de David. Et parfois, il dit, je suis chassé comme une sauterelle. Alors, si vous avez été enfant, moi aussi, je l'ai été, hein, et j'ai poursuivi les sauterelles. Et j'en ai rempli des bocaux, pauvres petites sauterelles. Elles demandaient qu'à sauter partout, mais comme elles sautaient et qu'elles étaient difficiles à attraper, j'en remplissais des bocaux. Mais après, bon, ben, les pauvres, elles s'étouffaient et j'avais que des petits animaux morts. C'est dommage. Mais on a poursuivi des sauterelles. Je me dis, si, avec cet acharnement que j'ai eu à poursuivre les sauterelles, je crois que Saül devait faire la même chose avec David. David est là, il allait le chercher là, il allait le chercher là, il allait le chercher là, il le cherchait partout où il pouvait le trouver. Et puis, bien sûr, Dieu protégeait David. Dieu ne permettait pas que David soit entre les mains de Saül. Et jamais David n'a été entre les mains de Saül. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu sa voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Et il y a des moments où vous criez à Dieu. Et Dieu permet les épreuves. Il permet ces moments difficiles. Ce qu'il attend, c'est ce cri de foi qui se tourne, quelqu'un qui se tourne vers Dieu et qui dit, Seigneur, mon seul refuge, ma seule délivrance, c'est toi. Je ne veux compter sur personne. Je compte sur ta délivrance à toi. J'ai confiance en ta bonté. J'ai confiance en ton amour. J'ai confiance que tu es un père pour moi et que jamais tu ne m'abandonneras. Jamais. Je sais, j'ai cette certitude absolue parce que ta parole me le dit. Et tu ne peux pas changer, et tu ne changeras jamais. Dieu attend ce cri de foi, cette confiance totale. Et souvent, ce cri de foi, je ne dis pas toujours, mais souvent, ce cri de foi marque la fin de notre épreuve, parce qu'il fallait arriver là, dans l'épreuve. Vous avez l'épreuve de Job. Job était très éprouvé. Et à un moment, et c'est le paroxysme de son épreuve. Il dit, quand bien même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Et là, Satan était vaincu. C'était terminé pour Satan. Il n'avait plus de pouvoir sur Job. Il pouvait ajouter la persécution à la persécution. Job avait pris cette décision. Je ne cesserai pas. L'épreuve peut être encore plus dure, plus longue, plus lourde. Néanmoins, je ne céderai pas. Je croirai toujours à la bonté, à l'amour de Dieu, à sa compassion envers moi. Dieu ne m'a pas oublié, il ne m'oubliera jamais. Et c'est là que Dieu intervient et qu'il peut intervenir. C'est ce cri de foi. C'est en fait le moment où Dieu peut intervenir et c'est le moment où la foi triomphe de Satan. Et la foi traverse la muraille. C'est avec mon Dieu, je franchis une muraille. Hein, vous avez lu dans les psaumes cela. C'est curieux ce verset. Je franchis une muraille. Oh, bien sûr, les villes étaient entourées de murailles. Celui qui franchissait une muraille, il avait gagné la ville. Mais déjà mettre une échelle contre la muraille et passer par-dessus la muraille, c'était déjà un tour de force parce que tout le monde s'acharnait sur ce petit homme qui montait à l'échelle. Et même s'il y en avait 10 qui étaient derrière, il y en a un, ils se présentaient l'un après l'autre. Et donc on pouvait les tuer les uns après les autres. Et c'est dans ce sens-là que David disait, je franchis une muraille, parce que c'était pratiquement impossible. Mais David franchissait une muraille. Parce qu'il y a un moment où on a dépassé, on a gagné la victoire, parce que notre foi a triomphé. C'est le triomphe de la foi. Et psaume 21, verset 8. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Là, on a un aspect nouveau. C'est quand on se confie dans les compassions de Dieu, dans sa bonté, dans son amour, eh bien, on ne chancelle pas. Satan peut nous amener dans toutes sortes de directions. Si on a des doutes sur l'amour de Dieu, il peut dire, oui, mais tu vois, Dieu t'aime toujours, mais regarde ce qui t'arrive. Regarde les gens du monde, et il n'y a pas de problème, ils sont riches, ils ont ceci, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Mais ils n'ont pas de problème, ils ont pu faire ci, ils ont pu faire ça, et ça, et ça. Et ils ne présentent que le bon côté. Comme toujours, c'est un menteur. Il transforme la vérité. Mais si nous ne sommes pas, nous ne nous appuyons pas sur le caractère de Dieu, eh bien nous allons chanceler, nous allons être troublés, nous allons avoir des vertiges, des faiblesses. Et on va se dire, mais Dieu ne m'aime plus, Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça, Dieu me prive. Et souvent, Satan nous dit, hein, il vient apporter ça. Dieu t'a privé de ça. Il ne nous a pas privés. Il ne nous a pas privés. Dieu ne nous prive pas de ce qui est bon. Si quelque chose est bon pour nous, il ne nous en privera surtout pas. Si vous vous rappelez la parabole que le Seigneur Jésus avait donnée à ses disciples, il avait dit, lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou un poisson, il lui donnera un serpent, etc., etc. C'est à plus forte raison, si méchant comme vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui l'aiment, ceux qui le servent. Dieu ne nous prive pas. Il y a des choses qu'il ne nous a pas données parce que ce n'était pas pour nous, ce n'était pas nécessaire. Nous n'avions pas besoin vraiment. Mais si Dieu avait jugé que c'était nécessaire et s'il avait vu la nécessité, eh bien il nous aurait donné. Mais parfois, nous ne sommes pas capables d'apporter la bonne réponse. Si possédons la chose que nous avons tant attendue, eh bien, nous sommes désorientés et nous allons mal parce que nous ne savons pas gérer certains biens. Je me rappelle du titre d'un traité qui était distribué par les chrétiens du 19e siècle. Le traité s'appelait De la nécessité de la pauvreté pour le chrétien. Et la personne disait tout ce qui était en quoi la richesse chez un chrétien jetait le trouble dans sa vie chrétienne. Et en fait, quand on a fini de lire le traité, on se dit, mais en effet, si on a beaucoup plus de foi et de confiance en Dieu, on compte davantage sur Dieu si on a parfois des difficultés matérielles. Tandis que si on a tout, eh bien, pourquoi demander à Dieu? Et même il y a des gens riches, ils disent, mais pourquoi est-ce que je vais rendre grâce à Dieu? C'est ma main qui m'a donné tout ça. C'est mon énergie. Si je n'avais pas travaillé, je ne l'aurais pas. Et ils disent, pourquoi est-ce que je vais remercier Dieu? C'est pas moi, c'est pas Dieu, c'est moi qui a pourvu tout ça. Tandis que quand on a prié, qu'on a dit Seigneur, pourvois mes besoins, parce que j'ai besoin, je suis dans la difficulté, alors à ce moment-là, on dit oui, mais c'est Dieu qui donne. Et le riche ne se rend même pas compte que Dieu, eh bien, donne. Et que s'il a eu la force de faire ça, c'est parce que Dieu lui a donné la force, et l'énergie, et l'intelligence, et qu'il dépendait de Dieu quand même. Et puis, psaume 25, versets 6 et 7. « Éternel, souviens-toi de la miséricorde et de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse et de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Ici, David plaide sa cause, hein. Il dit, souviens-toi de ta miséricorde et de tes compassions. Souviens-toi de ton amour. Oh, mais Dieu n'a pas oublié. Mais lui dit, rappelle-toi que tu es le Dieu d'amour et viens à mon secours. Parce que ta miséricorde, tes compassions sont éternelles. Et là, on a le. Satan vient nous dire, oui, mais Dieu ne t'a pas exaucé parce qu'il t'aime pas assez. Mais la bonté et l'amour de Dieu sont éternels. Donc il ne peut pas s'arrêter d'aimer. Il ne peut pas s'arrêter de nous aimer. Si Satan vient nous dire que nous avons eu des. Il y a une faiblesse dans l'amour ou un trou dans l'amour de Dieu, hein, il nous a aimés, puis paf, pendant une petite période, il ne nous aime pas. Et puis après, hop, il a repris son amour. Voilà. Eh bien non, l'amour de Dieu n'a pas changé. C'est l'éternité même de l'amour de Dieu, de sa compassion envers nous. Il nous aime, il nous chérit tendrement, constamment, jamais. Cela s'arrête. Jamais. Vous pouvez douter de beaucoup de choses dans votre vie. Jamais de l'amour et de la compassion de Dieu. Jamais. Parce que si jamais vous le faites, vous êtes en faiblesse. Vous êtes complètement démuni devant Satan. Complètement démuni devant le monde. C'est notre force de continuer à croire et à nous appuyer et dire Dieu m'aime. Il ne cessera jamais de m'aimer. C'est son amour et sa compassion sont éternels. Et même quand nous n'aurons plus besoin de prier, quand nous serons dans le ciel pour l'éternité, que nous serons changés et transformés en la même image que Christ, l'amour et la compassion de Dieu seront toujours là. Nous n'aurons plus besoin de tourner nos regards et de mettre notre foi dans ces attributs, ces qualités de Dieu. Mais seront toujours là. Jamais Dieu cessera d'être ce qu'il est. Il l'est éternellement. Et il ne cessera jamais. Vous connaissez tous cette petite histoire et je la trouve très belle, donc je vais vous la raconter à nouveau, mais je suis sûr que vous la connaissez. Donc je vais vous rafraîchir la mémoire. Il y avait un homme qui avait fait un rêve. Et dans son rêve, eh bien, il marchait avec le Seigneur. Et cela laissait des pas sur le sable. Et puis, il a vu passer par le chemin derrière de nouveau. Et puis, il a vu les pas. Et à certains moments, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Et à d'autres moments, il y avait deux. Et alors, il s'est tourné vers le Seigneur. Il a dit, mais tu m'as abandonné à certains moments. Et le Seigneur lui a dit, non, je t'ai porté. C'est pour ça qu'il n'y avait qu'une seule trace de pas. Parce que Dieu le portait. Il n'était pas nécessaire, il n'était pas capable de marcher tout seul. Alors, la trace de pas, c'était celle de Dieu. C'était pas celle de la personne qui était accompagnée et qui raconte. Mais donc, souvent, on est injuste vis-à-vis de Dieu. Et on ne se rend pas compte à quel point Dieu ne cesse pas de nous aimer. Oh, vous savez, quand quelqu'un est en difficulté et qu'il vient me voir, je lui dis, est-ce que tu as rendu grâce à Dieu? Alors, je me rappelle d'une personne, il n'y a pas longtemps, mais elle avait des problèmes, et donc on a parlé. Je lui dis, mais tu sais ce que je t'ai déjà dit? Oui, il faut rendre grâce à Dieu. Mais oui, il faut rendre grâce à Dieu. Il est dit, rendez grâce en toutes choses, vous le connaissez. Je vous remercie, mes frères, vous me faites plaisir. C'est mes sœurs. C'est rendez grâce en toutes choses. Et toutes choses veut dire toutes choses. Ça ne veut pas dire les bons moments, les mauvais aussi. C'est toutes choses. Parce que nos meilleurs moments, je vais vous étonner, c'est nos pires moments. C'est les moments où Dieu nous construit le plus, où il nous amène le plus loin, c'est dans les moments de plus grande difficulté. Et nous sommes, si nous avons suffisamment de foi, Eh bien, nous pouvons dire, Seigneur, je te fais confiance, que ce moment qui est très difficile sert à mon édification et à me fortifier et à m'amener plus loin. Et je te rends grâce pour tant d'amour, tant de compassion, parce que tu ne cesses jamais de m'aimer. Oh, vous savez, je peux dire une chose, c'est que rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait, et reconnaître que ce qu'il fait est bon, même quand ça ne nous satisfait pas complètement et que nous nous sentons un peu frustrés, eh bien, c'est un acte de foi. Et cette foi bâtit notre vie, affermit notre vie. Notre vie chrétienne est bâtie sur des fondements solides. C'est le fondement solide, c'est Dieu lui-même. C'est le caractère même de Dieu qui est éternel. Dieu ne change jamais. Ta bonté est éternelle. C'est l'amour de Dieu ne changera jamais. Et Dieu ne fera pas une exception pour vous. Il n'a jamais fait une exception pour personne. Et jamais vous serez une exception. Les parents dignes de ce nom aiment leurs enfants. Et nous appelons Dieu notre Père. Et quand le Seigneur Jésus les disciples sont venus et lui ont dit, enseigne-nous à prier. Il a dit, eh bien, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Voilà. Déjà, le commencement de cette prière modèle, c'est notre Père. Et puis le Seigneur Jésus triomphe et après la résurrection, il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. Et votre Dieu. Nous n'avions aucun droit à appeler Dieu notre Dieu. Nous n'étions pas des juifs. S'il y a quelqu'un qui est juif ici, eh bien, moi, je ne suis pas juif. Peut-être qu'il y a peut-être un ancêtre, mais inconnu de moi qui l'est. Peut-être, c'est probable, parce qu'on est tous, il y a tellement de mélanges de populations. Mais normalement, je ne suis pas juif. Et je ne pouvais pas appeler Dieu mon Dieu. C'est le Dieu d'Israël, mais ce n'était pas mon Dieu à moi. C'était mon juge, oui. Il était irrité et courroucé contre moi. Mais je peux dire mon Dieu. Après le triomphe de la croix et la résurrection, le Seigneur Jésus peut dire mon Dieu et votre Dieu, mon Père et votre Père. Et à partir de ce moment-là, toute personne née de nouveau, réconciliée avec Dieu, peut dire à Dieu mon Père. Et Dieu agit envers cette personne comme son père. Et nous sommes ses enfants. C'est quelque chose de très important. Nous avons des trésors inimaginables. Et Satan essaye constamment de nous les voler. Et nous devons être vigilants et dire non, ça, tu n'y touches pas. C'est pas à toi. C'est mon père qui me l'a donné. C'est notre père. Nous a donné des promesses, il nous a donné des choses magnifiques et il nous a donné lui-même. Il est lui-même notre héritage, notre bien, notre possession. C'est un héritage délicieux mais déchu, une possession admirable mais donnée. C'est dans un psaume que cela est dit. Nous avons un grand héritage, c'est Dieu lui-même. Son caractère. Et Satan essaye constamment de nous amener sur le chemin du doute et de nous amener à douter du caractère de Dieu. Mais ne doutez jamais, parce que Dieu ne changera pas. Il sera toujours le même. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Elles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais Dieu restera toujours le même pour nous. Toujours. Les choses peuvent changer. L'éternité de Dieu restera toujours l'éternité de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, bon, j'ai beaucoup hein, de versets. Hein. Mais psaume 27, verset 13. C'est une très belle promesse. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Là, il a la certitude de voir un jour la bonté de Dieu sur la terre des vivants, de voir l'amour de Dieu sur la terre des vivants. Nous ne pouvons pas être des pessimistes et des défaitistes. La parole de Dieu ne nous autorise pas à avoir une telle démarche intellectuelle ou émotionnelle. Et beaucoup de chrétiens se permettent d'être dans la défaite. Et jamais vous avez ce droit et cette permission. Nous sommes sûrs de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants, pas dans le ciel. Hein. Ce n'est pas quand nous serons dans l'éternité, c'est dès maintenant. Dès maintenant, Dieu nous prouve et nous montrera à quel point il nous aime, à quel point il est fidèle, à quel point il est plus près de nous que l'être qui nous aime le plus au monde. Je peux rendre grâce à Dieu parce que mon père était mon meilleur ami. Je peux dire, mon père et moi, nous étions deux amis. Le Seigneur l'a repris, que son nom soit glorifié et loué. Mais mon meilleur ami, c'est Dieu lui-même. Un père peut être exceptionnel, et mon père l'était. Il peut être rempli de compassion et d'amour. Mon père pensait toujours à moi. Il achetait des petits trucs, je ne sais plus à qui je l'ai dit, il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est tout à l'heure en cours. Mais il pensait à des choses, mais constamment. Mais Dieu est beaucoup plus qu'un père humain. Si un père humain est capable d'être cela, à plus forte raison, le Père Céleste. Et il est cela infiniment et pour l'éternité. Un père humain peut avoir des faiblesses de temps en temps. Il peut avoir des manques, des oublis. C'est même si, involontairement, il peut être occupé à autre chose et être distrait du problème de son enfant. Mais jamais notre Père Céleste, jamais. Nous sommes sûrs de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Et si Satan vient vous dire le contraire, c'est lui qui a tort. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que nous allons voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mais, je l'ai déjà dit et je le répète, il faut que nous marchions en conformité avec le caractère de Dieu. Si nous sommes des rebelles, des insouciants, des incrédules, tout ce que vous voulez, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu cautionne par des réponses aux prières notre manière d'être et notre manière de faire. Si Dieu répondait à certaines prières, il cautionnerait le péché. Et Dieu ne peut pas cautionner le péché. Il veut nous exaucer, il veut répondre et il souffre de ne pas nous répondre. Mais il dit, ce qui met une limite au Dieu d'Israël, ce sont vos péchés. Et parce qu'il y a le péché, la désobéissance, Dieu ne peut pas intervenir. Et notre responsabilité à nous, ce n'est pas d'accuser Dieu et de dire « tu n'as pas répondu à mes prières », c'est de dire « Seigneur, sonde-moi et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi dans la voie de l'éternité ». Et comme disait celui qui a écrit le psaume 119, sans doute David, il dit « cherche-moi comme une brebis perdue ». Et puis il faut « cherche-moi ». Et je me laisserai trouver aussi. Parce qu'il y a des personnes qui savent bien se cacher. Et si Dieu les cherche, ils vont tout partout. Dieu est à leur poursuite, mais ils ne se laissent jamais rattraper. Mais il faut fléchir le genou devant Dieu. Il faut accepter l'autorité de Dieu dans notre vie. Il faut accepter que Dieu soit notre tout suffisant, qu'il soit vraiment le Dieu dans notre vie. Et pas notre serviteur. Et qu'on a fait une prière, et bien j'ai claqué des doigts, Seigneur, tu n'as pas répondu? Et d'où vient que tu ne réponds pas quand je claque des doigts? Et que j'élève un petit peu la voix quand je prie? Je me rappelle un jour, j'étais dans une réunion, et le pasteur priait. Il a dit, « Seigneur, tu feras, et tu agiras, et tu nous donneras !» Je n'ai pas dit « Amen », hein. C'est la prière du chrétien, c'est une prière humble. On se met à genoux, on s'humilie. Celui qui a de l'arrogance vis-à-vis de Dieu, il ne peut pas attendre quoi que ce soit de Dieu. Et s'il obtient quelque chose, ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi de Dieu qu'il va obtenir quelque chose. Parce que même parfois, Dieu permet que Satan agisse d'une certaine manière. Quand certains sont allés si loin, ils obtiennent en effet ce qu'ils ont demandé, mais ce n'est pas Dieu qui leur a donné. Ils ont obtenu pour leur malheur. Et j'ai rencontré plusieurs personnes dans mon ministère qui avaient crié à Dieu, qui avaient demandé, qui avaient imposé à Dieu leur volonté. Et ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Et c'était un malheur. C'était un malheur. Et ils en ont pleuré des années de leur vie. Parce que c'est l'histoire du roi d'Israël. J'ai donné un roi dans ma colère. Et je le retirerai dans ma fureur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais Dieu a permis à Satan, vas-y, occupe-toi d'eux. Ils ont demandé, fais-le. Et puis, ils le font. Mais toujours, nos prières et notre attente doivent être en harmonie avec le caractère de Dieu. Et si nous prions sans tenir compte du caractère de Dieu, eh bien, nous sommes dans l'erreur. Et nous ne sommes pas prêts à obtenir quelque chose qui vienne de Dieu. C'est important, cela. Eh bien, on va lire un dernier verset, psaume 31, verset 20. Il est en rapport avec celui qu'on vient de voir. 31, verset 20. Ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils des hommes. Et tout à l'heure, on avait vu, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ici, il dit, ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Ceux qui te craignent. La crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui veut rien faire, qui déplaise à Dieu, qui veut toujours se soumettre à Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ dit, ta loi est au fond de mon cœur. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est très important. On vient pour faire la volonté de Dieu, pour marcher à la lumière de Dieu, pour marcher en accord avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se soumet à notre volonté, c'est nous qui nous soumettons à sa volonté. Et nous acceptons sa volonté. Et la plupart de sa volonté, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Parfois Dieu, c'est pour ça que je dis la plupart du temps, parce que de temps en temps Dieu nous montre quelque chose, ce n'est pas écrit spécialement dans la parole de Dieu, mais nous engage à aller dans une certaine direction pour faire une chose ou une autre. Mais néanmoins, on se soumet à la volonté de Dieu. On a la crainte de l'Éternel. Et alors on peut attendre que Dieu use d'amour et réponde à nos prières. Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Mais parfois, nous ne sommes pas dans les conditions où Dieu peut répondre à nos prières. Et donc, Dieu ne répondra pas, parce que nous ne sommes pas dans les conditions favorables. Et c'est dommage. Normalement, nous devrions toujours être en accord avec Dieu, en communion avec Dieu, marcher dans la lumière, marcher dans la présence de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. Et après, nous pouvons obtenir et attendre de Dieu des réponses à nos prières. Et ça, c'est une bonne chose, parce que Dieu veut nous répondre. J'arrête là parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup d'autres versets. Je me suis limité dans les versets et puis même dans ma limite, j'ai encore pour vous dire que si jamais on veut parler de l'amour de Dieu, je peux aller, mon petit papier peut nous amener jusqu'à 1h du matin. Mais si j'avais pris tous les versets qui étaient possibles, nous commencerions la journée de demain aussi. Parce que c'est un sujet si vaste, si grand, si merveilleux que nous sommes dépassés. Nous sommes si petits devant tant d'amour, tant de grâce. C'est même Jacob qui disait, je suis bien trop petit pour toutes les grâces que tu as accomplies pour moi. Je suis bien trop petit. Dieu a usé de grâce envers nous. Il use encore de grâce. Il use encore de miséricorde. Il agira encore dans nos vies. Et c'est quelque chose de merveilleux. Comptons sur son amour. Comptons sur sa présence. Comptons qu'il est le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant. N'écoutons pas l'ennemi, mais écoutons ce que dit la parole de Dieu au sujet de notre grand Dieu, notre Père, notre Dieu. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui nous a donné cela, ce privilège immense de pouvoir nous approcher de Dieu, d'appeler Dieu notre Père. La crucifixion et la résurrection, bien sûr. Hein. Résurrection parce qu'il y a crucifixion avant. Mais c'est quelque chose de merveilleux. Nous allons prier. Ô Père céleste, nous désirons te louer et te rendre grâce parce que nous n'aurons jamais honte d'avoir cru en toi, de nous être confiés dans ta parole, d'avoir levé les regards vers toi, de nous être attendus à toi. Ô Seigneur, crée en nous un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé, qu'un esprit de bonne volonté nous anime, que nous ayons soif de toi, de marcher dans tes voies, de faire ta volonté, de faire ce qui t'est agréable, ce que tu désires pour notre vie. Nous remettons tout entre tes mains, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu agis d'une manière si merveilleuse, si grande et si parfaite. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es vraiment le grand Dieu, notre Dieu tout-puissant. Louange à toi, notre Dieu, parce que nous sommes comblés de bien en ta présence. Oui, Père céleste, tu es notre plus grand bien, notre plus grande joie sur cette terre. Nous ne voulons espérer qu'en toi. Nous voulons nous reposer qu'en toi. Nous voulons lever les regards que vers toi. Nous te remercions, Seigneur, pour tout. Nous te remercions pour ta parole, qui est tellement belle, où il y a tellement de vérités, tellement de choses que nous avons besoin d'apprendre. Gloire et louange à toi, notre Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.